Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église, à deux semaines maintenant du Vendredi Saint et du week-end de Pâques. Dans l'attente de cet événement le plus important de l'année pour les chrétiens, j'ai souhaité consacrer cette émission à ceux très nombreux qui s'apprêtent à recevoir le baptême en cette année 2025, où il n'est pas exagéré de parler d'un véritable catéchuménat boom. Et pour nous aider à cerner et à comprendre ce phénomène du boom du catéchuménat en 2025, j'ai invité le père Simon d'Artigues, curé des paroisses cathédrales à Toulouse. Il est venu avec deux animatrices de ces paroisses, accompagnatrices de groupes de catéchumènes, Florence Elisabellard et Claudine Fabre. Bienvenue à tous les trois, merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que l'ensemble paroisse cathédrale regroupe non seulement la paroisse de la cathédrale Saint-Étienne, mais aussi celle des églises Notre-Dame de la Dalbade, Notre-Dame de la Dorade et l'église Saint-Aubin. Vaste ensemble donc. Parlons chiffres d'abord, si vous le voulez bien, même si l'aspect comptable ne suffit sans doute pas à mesurer l'ampleur du phénomène dont nous parlons aujourd'hui. Combien de catéchumènes avez-vous recensé en 2025 pour paroisse cathédrale et comment ce chiffre a-t-il évolué ces dernières années? Père Simon.
Alors aujourd'hui, il y a 173 catéchumènes sur la paroisse. Il y en a 25 qui demandent la confirmation. Il y en a une trentaine qui demandent la première communion et tous les autres qui demandent le baptême. Donc de l'âge lycéen jusqu'à l'âge adulte, les plus âgés doivent avoir une cinquantaine d'années.
Alors on va regarder dans le détail évidemment, sociologique si on peut dire, la répartition à l'intérieur de cette population de 173 catéchumènes en 2025. Les années précédentes, vous en aviez combien? Alors j'avais en tête une cinquantaine en 2024.
Oui, c'est ça, une cinquantaine et une vingtaine en 2023. Donc il y a une croissance
on peut dire
exponentielle.
Exponentielle, voilà, l'adjectif n'est pas exagéré. Et on sait que c'est une évolution générale en France.
Oui, il semblerait. Je ne sais pas s'il y a encore déjà des statistiques précises, mais quand on en parle, en tout cas entre prêtres ou entre animateurs du catéchuménat, on voit que c'est une réalité qui touche toute la France, que ce soit les villes, les grandes villes, les zones plus rurales, les diocèses plus petits. C'est vraiment la France tout entière qui est touchée par cette grâce.
Oui, on peut parler de grâce. Alors, 8324 catéchumènes en 2023 sur l'ensemble du territoire français, 12160 en 2024. Donc déjà, il y avait eu 50% d'augmentation. Et puis en 2025, on n'a pas encore les chiffres, mais je crois que ça continue sur cette pente, peut-être de façon encore plus impressionnante. Si on regarde le détail de cette population, en tout cas dans vos paroisses, quelle est la répartition entre les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, les origines sociales? Est-ce que c'est extrêmement varié ou est-ce qu'il y a quand même des groupes qui émergent, si on peut dire?
Ah oui, je crois que c'est très varié. Enfin, vraiment, pour les hommes et les femmes, je dirais que c'est 60-40, enfin 60% de femmes, 40% d'hommes. Ce qui est marquant, c'est que ce sont surtout quand même des jeunes, des 18-25 ans, des lycéens. On commence à avoir des arrivées de lycéens. Il y en a une vingtaine actuellement dans la paroisse. La masse, c'est ça. Sur la diversité, je ne sais pas, peut-être que Claudine ou Florence peuvent... plus en parler, enfin sur le...
Alors Florence, vous avez un groupe de 14 catéchumènes.
Alors j'ai un groupe de 14 catéchumènes avec un âge assez constant, plutôt la trentaine, entre 20 et 30, mais des origines sociales très, très disparates.
Donc de jeunes adultes plutôt.
De jeunes adultes plutôt.
Mais avec des origines sociales
très différentes.
Très différentes.
Oui. Depuis des personnes qui ont fait des études supérieures poussées jusqu'à des personnes qui sont en difficulté, donc très différents.
Et vous Claudine, vous avez...
Moi j'ai un groupe 11. De 11 personnes, dans la tranche d'âge 30-40, une seule jeune qui a 20 ans. Ils ont tous un bon niveau intellectuel, ils ont tous fait des études supérieures, et la petite jeune est en cours d'études. J'ai un groupe assez homogène, moi.
Oui, alors
il y a peut-être une précision, ce qui est peut-être spécifique à la paroisse, mais on a un groupe aussi de personnes de la rue qui demandent un accompagnement un peu particulier. Donc il y a aussi ces personnes-là, puisque l'apostolat de la paroisse fait qu'on est souvent en lien via des maraudes, via des repas solidaires, via de l'hébergement avec des personnes de la rue, des personnes en grande difficulté, qui elles aussi, en fait, peuvent demander, enfin, ils sont trois à demander le baptême. On imagine bien que ce n'est pas le même type d'accompagnement, mais c'est pour dire que même une paroisse de centre-ville plutôt bourgeoise, homogène.
Mais plutôt bon quartier, voilà, si on
bon quartier, c'est ça.
Il
y a aussi,
tout le monde.
Le Christ, en fait, le Seigneur, vient toucher tous les cœurs. Ça, vraiment, on en est fortement témoin.
Et donc, vous en avez quelques-uns dans votre groupe.
Alors, j'ai une personne dans mon groupe, oui, ouais. Une personne.
C'était justement une des questions que j'allais vous poser. Par quel canot arrive-t-il en général? Comment viennent-il frapper à la porte?
Alors, de fait, hein, Dieu se sert de tous les canaux. Donc, les trois canaux principaux. Le premier, c'est quand on jette les filets à la fin de la messe. Nous, prêtres, on fait une petite annonce en disant, voilà, il y en a peut-être parmi vous qui ne sont pas baptisés. À chaque messe, on a des personnes qui viennent nous trouver à la fin pour dire, voilà, écoutez, moi, je ne suis pas baptisé ou je ne suis pas communié. Ça fait un mois, six mois, un an que je viens à la messe. Donc, ça, c'est le premier canal. Le deuxième, c'est via Internet. Ou bien, on avait laissé traîner des petites cartes dans nos églises, sur les bancs, avec marqué « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» avec un QR code et une petite enquête. Et en fait, la plupart des personnes qui ont répondu, et ils sont une trentaine quand même, demandaient le baptême. Donc, ils prenaient cette carte et voilà. Et le troisième canal, c'est par un ami. C'est parce qu'un ami m'en a parlé et il m'a amené. Voilà, comme dans l'évangile de Saint Jean, hein, c'est un apôtre qui amène un apôtre à Jésus. Voilà, c'est un copain qui amène par le témoignage, soit d'un paroissien, soit d'un ami, soit d'un autre catéchumène qui ose parler de sa démarche.
Est-ce qu'il y a aussi des gens issus d'autres religions qui viennent vous voir et qui veulent franchir le pas, donc s'engager côté chrétien, catholique?
Il y a 10% de musulmans qui se convertissent, qui vraiment choisissent le Christ et le rencontrent, touchés par son amour la plupart du temps, par vraiment la découverte de l'amour de Dieu. Il y en a qui viennent de religions orientales, puis beaucoup qui viennent du New Age. Alors, ce n'est pas une religion, mais c'est une espèce de magma qui ont fait des expériences spirituelles.
Moi, j'en ai qui viennent de parents qui ont des religions différentes, qui, à un moment donné, choisissent de basculer vers le catholicisme.
Oui, qui peuvent être issus de couples dits mixtes, en tout cas sur le plan religieux,
tout à fait.
Et qui hésitent, qui peuvent être parfois déchirés. Comment vous expliquez-vous maintenant le phénomène en lui-même, ce boom du catéchuménat, à partir de votre expérience de terrain et des témoignages, des motivations aussi que vous pouvez recueillir auprès des catéchumènes? Claudine Fabre.
Il y en a qui ont vécu des expériences très douloureuses. J'ai un catéchumène qui m'a dit qu'il avait vraiment touché le fond. Et un copain l'a amené à la messe une fois. Et ça l'a touché. Après, je connais aussi des couples qui se sont mariés religieusement. Et l'épouse est très croyante, très pratiquante. Et ce phénomène-là va les décider à faire le choix du catéchuménat, d'entrer dans la religion.
Florence, Elisabeth.
Alors, on a aussi eu des témoignages de l'influence de grands-parents qui parlaient de la foi à leurs petits-enfants alors que les parents ne le faisaient pas. Donc ça, c'est aussi important. Et puis des événements religieux, des messes de mariage ou d'enterrement qui ont pu également, à un moment donné,
jouer un rôle de
toucher,
révélateur,
voilà, et... révéler qu'il y avait une soif qui dépassait l'événement.
Oui, il y a pas mal aussi qui disent qu'ils cherchent un sens à leur vie, un sens à leur boulot, un sens. En fait, ils cherchent un sens et du coup, ils vont le chercher un peu partout sans trouver. Et finalement, le grand réservoir de sens, c'est l'Église catholique, c'est Dieu lui-même, quoi. Et donc, cette soif dont parlait Florence, qu'ils ont cherché à étancher parfois dans des spiritualités, dans des expériences de psychotropes, ou bien dans l'expérience extrême, ou bien dans le boulot, qui ne satisfait pas. Et finalement, celui qui satisfait, celui qui comble, en fait, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, quoi. Et ça, je veux dire, c'est presque majoritaire. Parce que quel que soit que ça vienne par un grand-parent ou autre, il y a vraiment d'abord cette soif, mais c'est l'évangile de la Samaritaine qu'on a entendu pour le premier scrutin. C'est vraiment ça, et ça, c'est constant. Alors ça se manifeste différemment aujourd'hui, parce que c'est lié à des questions sociales. La crise du Covid, par exemple, c'est certain qu'elle a marqué quelque chose.
Je pense que beaucoup de gens se retrouvent seuls face à eux-mêmes. Ouais. Ça, je pense que ça a pu jouer.
Et de fait, l'Église répond, Jésus-Christ répond. Il dit, voilà, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ben, pour quelqu'un qui cherche un chemin, quand il entend ça, pour quelqu'un qui cherche la vérité, parce qu'on l'a trompé trop de fois. Et après, c'est une expérience spirituelle pour beaucoup d'entre eux. Et il y a des témoignages qui sont bouleversants sur la profondeur des expériences spirituelles. Ce n'est pas quelque chose de périphérique. C'est des personnes qui ont fait l'expérience de Dieu, de
Mais
ce n'est
pas quelque
amour.
Chose de vague, c'est quelque chose de très précis pour eux.
Pour beaucoup. Ouais.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour certains, même si c'est plus ou moins conscient, le désir de se trouver une sorte de communauté ou même de famille, de cœur et d'esprit qu'ils n'ont plus ou qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont jamais eu d'ailleurs?
Oui, ça c'est très fort. Ils découvrent la famille Église. et ils découvrent la bienveillance, la fraternité qui se joue dans l'église, au travers d'abord des messes dominicales, où certains vont assez souvent, puis au travers des réunions que l'on propose, ou même les veillées à l'Esprit Saint, la journée des serviteurs, ils commencent à se sentir intégrés. D'ailleurs, j'en ai un jour qui m'a dit à la sortie de la messe, « Ah, c'est merveilleux, je commence à connaître du monde maintenant.
Oui. »
Ça, ça m'a fait du bien.
Peut-être aussi le sentiment de se sentir utile. Hein.
Oui, aussi. Aussi, oui, oui.
Florence et Isabella.
Alors, dans mes groupes, ils ont beaucoup cherché sur les réseaux, ils ont beaucoup cherché sur Internet. Et en venant chez nous, ils sentent que l'Église s'incarne et qu'ils arrivent à vivre des moments forts. Donc oui, je pense qu'il y a une recherche de rencontrer du monde. Et de
faire, l'Église, c'est une vraie communauté. C'est une, enfin, et dans un monde où il n'y a plus trop de communautés, où on est très, c'est ce que disait Fourquet, enfin, sur l'archipel,
ouais,
voilà,
ouais,
c'est un grand individualisme. Et de fait, l'Église, est, enfin, je crois que toute paroisse, c'est une communauté humaine avec une dimension sociale très forte, hein, qu'il faut vraiment assumer. Et même nous, on a un principe un peu dans le parcours catéchuménal, en psychologie sociale, on dit que pour qu'une personne se sente intégrée à une communauté, il faut qu'elle ait noué des liens forts avec 7 membres de cette communauté. Et donc nous, le parcours catéchuménal, il est fait pour créer ces liens. C'est-à-dire, intentionnellement, on se dit, ben, on va lui faire rencontrer 2 personnes qui vont l'accompagner, une personne qui sera vraiment comme un ange gardien pour lui, un autre serviteur, ben, le curé, les personnes qui l'accueillent au tout début, et puis 2 autres membres. Voilà. Et en fait, en nouant ces liens, on lui fait sentir concrètement qu'il appartient à une communauté, et une communauté de frères et de sœurs. Enfin,
et où il a sa place.
Oui, il a sa place, oui, tout à fait. Alors ça, on l'aide, hein, c'est une part du travail des accompagnateurs de l'aider à trouver sa place, de discerner quel est le bon endroit. Et on essaie comme ça pendant le temps du catéchuménat.
On a parlé d'événements, la période Covid, il y a eu aussi l'incendie de Notre-Dame de Paris, qui a, je pense, aussi pu jouer un rôle d'électrochoc. Et on évoque, pour expliquer en partie en tout cas le boom de catéchuménat, qu'il y aurait dedans un aspect identitaire. Besoin d'adhérer à des valeurs millénaires qui auraient fondé la France et à quelque chose qui pourrait ressembler au roman national. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous l'avez constaté, en tout cas dans vos paroisses?
Alors si je regarde les 3 derniers groupes que j'ai accompagnés, non. Non, je n'ai pas vu cela.
Donc,
moi non plus. Je n'ai pas du tout constaté, moi, ça. Pas du tout.
Après, ça peut exister. Et d'ailleurs, en fait, les motivations des personnes qui arrivent... Nous, on accueille toutes les personnes. Enfin, même quand leur demande nous semble très tordue. Je vous parlais de cette jeune femme là, qui a rencontré Jésus via des expériences sous psychotropes. On pourrait dire, bah, non, mais ça, c'est complètement... on lui ferme la porte. Bah, non, pas du tout. En fait, on accueille et toutes les raisons pour lesquelles elles viennent sont à purifier, comme toutes nos motivations, en fait. Donc, il y a une évangélisation de toutes les raisons. Il n'y en a aucune qu'on doive condamner directement, et même il n'y en a aucune qu'on doive condamner. La personne vient, le Seigneur lui-même a été la chercher parfois très loin. Il peut avoir des motivations politiques, il peut avoir des motivations idéologiques ou autres. En fait, ça c'est à nous de les accompagner, de les purifier, de les amener au Christ. Mais j'allais dire, ça c'est la vie chrétienne, la vôtre et la mienne. Quoi.
Oui, parce que bon, ce phénomène identitaire qui existerait dans le catéchuménat aujourd'hui inquiète certains, y compris à l'intérieur de l'Église. Or, je constate que vous concernant, vous n'observez rien de cet ordre.
Non. Et puis, en fait, il ne faut vraiment pas s'inquiéter de la venue des catéchumènes. Il faut s'en réjouir.
Et pour vous, il n'y a pas de mauvais canal pour venir jusqu'à vous.
Ah non.
Les gens n'arrivent pas par hasard. Ce n'est pas possible.
Non,
il n'y a aucun mauvais canal.
Alors, de manière générale, une fois que des personnes viennent frapper à votre porte pour s'engager sur le chemin du catéchuménat jusqu'au baptême, une fois qu'ils ont fait le premier pas, est-ce qu'ils se lancent toujours justement sur ce chemin ou est-ce qu'il y en a qui peuvent reculer dans un second temps? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites?
Alors, le temps pour qu'ils arrivent, ça ne se fait pas d'un seul coup. Je vous disais, sur la messe, il y en a qui, parfois, pendant une année, vont fréquenter la messe.
Tourner autour.
Et voilà, ils vont tourner autour. Et donc, nous, il faut accepter cette temporalité. Et là, on est vraiment serviteur de ces personnes.
C'est-à-dire que vous ne brusquez jamais les choses.
Je pense qu'il faut être très patient. Il faut leur montrer que nous sommes là, que nous les attendons, qu'ils seront toujours accueillis.
Que la porte est toujours ouverte.
Que la porte est ouverte. Mais on ne peut pas forcer, leur liberté doit rester première.
Mais j'ai l'exemple d'un garçon qui était d'origine musulmane, qui a entamé le parcours avec beaucoup d'enthousiasme, et puis après, au bout de la première année, ça patinait, il ne venait pas aux rencontres, et on a compris qu'il avait besoin de faire une pause. Et il l'a faite de quelques mois. Et la deuxième année, justement, il était dans mon premier groupe, première année. La deuxième année, il passait dans le groupe de Florence. Il a été merveilleux. Tout à fait. Il a été merveilleux. Oui. Donc il faut savoir, quand le besoin apparaît, leur laisser le temps.
Quand ils ont frappé à la porte, quelles sont leurs principales interrogations? Quelles sont les questions qui reviennent le plus? Ou les inquiétudes, éventuellement?
La première inquiétude, c'est « je ne suis pas légitime ».
C'est ça.
Voilà. Oui.
C'est « je ne suis pas légitime ». L'Église semble un club un peu fermé, avec des codes, avec des rites, avec et du coup, c'est « je ne suis pas légitime ».
Je suis toujours troublée de voir quand ils demandent « est-ce que je peux venir à la messe ?»
Oui. «
Est-ce que je peux venir à la messe ?» Alors que c'est...
Ça, c'est vraiment très étonnant.
Ça, oui, c'est très étonnant.
Les gens voient encore
et très...
ça comme...
Très touchant aussi qu'il se pose cette question.
Parce que nous, on croit qu'on est accueillant. Dans la paroisse, on se dit, ben oui, on a beaucoup travaillé ça. Mais en fait, le retour qu'ils nous font, et ce n'est pas un retour négatif, c'est qu'on ne l'est pas tant que ça. On ne fait pas assez attention à ces personnes qui sont là. Parfois, je pense à une personne qui était là depuis un an dans la nef de la cathédrale et que personne n'a jamais salué, quoi. Alors, elle ne cherchait pas à être saluée, elle se mettait au fond, discrètement, etc.
Oui, mais c'est souvent comme ça qu'on se fait repérer.
Ouais. Mais voilà, c'est ça. Donc là, le premier mouvement, c'est celui un peu de « ouais, je ne suis pas digne, quoi, je ne suis pas légitime, je ne suis pas... » Donc ça, c'est un grand frein, quand même. Et nous, il faut qu'on cherche la manière de le lever, parce qu'il y a quelque chose qui est intérieur chez le catéchumène, mais il y a quelque chose de notre attitude à nous, catholiques.
Dont vous n'êtes pas
fidèles,
forcément conscient.
On n'est pas conscient, mais en tout cas, leur retour nous convertir.
Vous devez en tenir compte.
Ouais, tout à fait.
Parce que de quoi ont-ils le plus besoin, finalement, pour être accompagnés? C'est de l'attention avant tout. Est-ce que c'est de l'attention?
Je pense qu'il faut savoir les écouter, beaucoup. Voilà, déjà, qu'ils sachent que dans le groupe, ils peuvent avoir des oreilles et des cœurs qui prennent soin d'eux. Donc c'est important. Déjà une écoute. Et ensuite, les encourager et lever, justement, toute cette culpabilité, entre guillemets, qu'ils pourraient entretenir.
Arriver à les convaincre qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Non plus.
C'est ça.
Ils peuvent poser
c'est
toutes
sûr.
Les questions qu'ils veulent.
Bien sûr.
Oui, puis parfois, nous, savoir quels sont leurs besoins. Parce que parfois, on a des idées très précises de ce qu'on veut leur apporter, de manière un peu descendante.
Alors que ce n'est pas forcément ce dont ils ont besoin
à
dans
ce
un
moment.
Premier temps, en tout
C'est-à-dire
cas.
C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'Église doit leur donner, mais est-ce que c'est le bon moment pour leur donner? Donc, il y a besoin vraiment de se mettre à leur écoute. Et j'allais dire, c'est une écoute individuelle, parce que
oui,
dans
il
un
faut
groupe
que ce soit
de 12,
personnalisé.
Il y a un accompagnement, peut-être qu'on y viendra un petit peu plus tard, personnalisé, mais Claudine comme Florence accompagnent des groupes de 12 personnes. Alors, on est deux pour ces groupes-là, mais... Et donc, voilà, donc il y a d'abord se demander, voilà, quels sont les besoins. En fait, c'est la phrase de Jésus à Bartimée, hein. Que veux-tu que je fasse pour toi?
Oui.
Voilà. Que veux-tu que je fasse pour toi? Avant de dire, j'ai plein de choses à te donner, que veux-tu que je fasse pour toi? Et de là, bon, on va commencer l'accompagnement.
Merci pour ce premier tour d'horizon du catéchuménat dans les paroisses cathédrales. Nous allons nous intéresser en seconde partie d'émission au parcours que vous proposez aux catéchumènes jusqu'au baptême, comment vous les accompagnez. En attendant, je vous propose d'écouter un extrait de l'oratorio de Pâques de Jean-Sébastien Bach, « Kommt eilet und laufet », qu'on peut traduire par « Venez, hâtez-vous et courez ». C'est une version de la Netherlands Bach Society.
Oh.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne avec mes trois invités, le père Simon d'Artigues, Florence Elisabellard et Claudine Fabre. Ils sont respectivement curés et animatrices des paroisses cathédrales à Toulouse. Florence Elisabellard et Claudine Fabre accompagnent des groupes de catéchumènes. Nous avons évoqué en première partie d'émission le boom du catéchuménat en 2025, en particulier ses aspects sociologiques. Mais une fois qu'une personne vous a fait part de son désir de s'engager, quel parcours lui proposez-vous jusqu'au baptême? Comment ça se passe-t-il?
Alors la première étape, c'est qu'on l'accueille. Donc elle est reçue personnellement par un homme et une femme de la paroisse qui vont prendre une heure avec elle pour lui faire raconter son histoire, pour lui expliquer un petit peu, répondre à ses questions, les premières questions en tout cas, et lui expliquer comment va se passer le parcours. Donc il y a cette première rencontre. Puis ensuite, on l'affecte, entre guillemets, selon ses disponibilités, à un groupe. Donc il y a 14 groupes sur la paroisse. Ça, c'est la deuxième étape, et là, je peux laisser soit Claudine, soit... parce qu'elles savent mieux que moi ce qui se passe dans ces groupes.
Claudine Fabre.
Moi, j'ai un groupe de 11 personnes, donc on va les réunir pour la première fois. Ils vont rencontrer leurs collègues. Ce qui les étonne quand même en premier, c'est la longueur du parcours. Ils n'imaginaient pas de devoir suivre 2 ans d'enseignement, entre guillemets, je dirais. Mais par rapport à ça, quand on leur demande à la fin du parcours, comme c'est le cas là, actuellement pour moi, s'ils l'ont trouvé long, ils ont dit « Ah non, on continuerait encore ». Donc le parcours, ils l'apprécient. Et donc cette rencontre avec Jésus, finalement, elle est infinie, comme pour nous, tout au long de notre vie.
Florence et Elisabella.
Alors, comme chez Claudine, nous accueillons chaque nouveau qui arrive dans le groupe. Nous nous réunissons 2 fois par mois, donc tous les 15 jours, à date et à heure fixe. Et nous partageons ensemble autour d'un texte d'évangile, dont nous suivons des parcours officiels. Et en même temps, nous les ouvrons aux événements de la paroisse, c'est-à-dire que nous avons à cœur de les inviter aux événements de la paroisse qui pourraient les intéresser. Donc, une veillée de prière, une messe, un temps convivial, un temps de partage, etc.
La durée moyenne du parcours, c'est 1 an et demi, 2 ans?
Oui, entre 18 mois et 2 ans. Oui.
Moi, j'aime bien dire comme critère, je trouve que c'est un critère assez objectif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 2 carêmes. En fait, 2 carêmes, ça dit bien, parce que ça veut dire que, quel que soit le moment où ils vont arriver, ils vont vivre un premier carême où ils vont découvrir la foi et donc et le temps pascal après. Et puis le deuxième carême, c'est celui qui va les mener à leur baptême. Et en fait, 2 carêmes, ça fait entre 1 an, tiers et 2 ans. Quoi, voilà. Parce que de fait, on a des catéchumènes qui arrivent toute l'année.
Mais oui. Voilà. Et surtout en ce moment.
Surtout en ce moment, oui. Hein, depuis le mercredi décembre, on a eu 24 demandes.
C'est âgé continu quasiment. Il n'y a presque pas une journée où il n'y a pas quelqu'un qui vient frapper à la porte.
Oui, ça fait 3 jours qu'on a eu personne, on se demande ce qui se passe, en fait.
Après, il y a des arrivages groupés, sans doute. Est-ce qu'il y a des abandons en cours de route? Et si oui, pour quelles raisons, en général?
Alors, moi, j'ai vécu 1 ou 2 abandons. Et paradoxalement, en fait, c'était plutôt en fin de parcours, au moment de passer la dernière étape. Oui. C'est-à-dire d'aller vraiment franchir le pas pour de bon, voilà, d'aller vers le baptême. C'est douloureux pour les accompagnateurs. Après, il faut laisser chacun libre. Très peu d'abandon en cours de parcours, vraiment.
Et vous avez su pourquoi les personnes avaient abandonné? C'est vraiment la peur, vous pensez, au moment de...
Non, on a essayé de garder le lien le plus longtemps possible, puis à un moment donné, on a laissé chacun libre. Voilà. Oui. Non, on n'a pas su.
Claudine Fabre, ça vous est arrivé, ça?
Non, je n'ai pas connu d'abandon, moi. Des temps de pause, oui, mais pas d'abandon. Et par contre, parfois, ils quittent la ville de Toulouse, mais ça n'est pas un abandon, et on les met en lien avec la paroisse qui va les accueillir... dans la nouvelle ville.
Après leur déménagement.
Un petit peu dans le... Enfin, pour continuer sur l'accompagnement. Donc, il y a l'accueil, l'accompagnement au sein du groupe. Et puis, nous, on a mis en place dans la paroisse une autre forme d'accompagnement avec ce qu'on appelle un Barnabé, pour prendre un terme biblique, hein, qui est Barnabé, c'est celui qui a introduit Paul auprès des apôtres dans l'Église. Et donc, on s'est dit qu'il était bon d'avoir d'autres paroissiens qui accompagnent individuellement. Donc, chaque catéchumène a un Barnabé qui va l'accompagner et l'aider à trouver sa place dans l'Église. Voilà. Et ça, c'est quand même une autre forme d'accompagnement. alors qui est vraiment très fraternel. Enfin, c'est être avec lui à la messe, l'inviter à déjeuner, rencontrer des paroissiens, visiter l'église, lui conseiller un podcast, l'inviter à l'adoration, par exemple. Enfin, voilà, l'aider à créer un lien fraternel à travers des activités paroissiales. Et ça, on voit que c'est très, très fécond comme type d'accompagnement.
Est-ce qu'il arrive que des catéchumènes vous fassent part d'incompréhension ou même parfois de pression de la part de leur entourage pour les faire renoncer ?
Oui, il y en a oui, qui subissent des pressions. Pour ceux qui sont d'origine musulmane, pour quelques-uns, pas pour tous, ça peut être très fort. Ils sont obligés de faire leur parcours en cachette de leur famille, sans oser le dire, même aux membres les plus proches. Et puis aussi, dans d'autres, il y a des familles très athées, très très opposantes.
Au point que anticlérical.
Très anticlérical. J'ai rencontré une jeune catéchumène qui m'a dit « Moi, je n'ose pas le dire à mes parents. Je sens que sinon, ils vont me tomber dessus, me critiquer. » Parfois, même, ça
entraîne... Est-ce que ça peut aller jusqu'à la rupture avec l'entourage familial ?
Non, mais de la prise de distance.
Florence et Isabella, avez-vous eu des cas comme ceci ?
Moi, j'ai toujours en tête, est-ce que les deux abandons que nous avons vécus n'ont pas été dus à une pression familiale, puisque c'était des personnes qui étaient quand même... un peu loin de leur famille. Mais la question reste posée, on n'a pas eu de réponse. Actuellement, non, je ne sens pas de pression dans les groupes.
Constance, qui s'occupe de la fraternité des lycéens, me racontait qu'elle avait entendu de la part des lycéens que des parents avaient des réticences, s'inquiétaient du chemin de leurs enfants. Et donc, elle a choisi de réunir tous les parents pour essayer de déminer un petit peu ces inquiétudes. Et à la fin de la réunion, il y a un des pères qui est venu la voir pour lui dire... moi j'étais assez inquiet de voir ma fille qui changeait depuis 6 mois. En fait, ça m'a rassuré de voir que vous étiez à peu près nombreux, parce que je croyais qu'elle rentrait dans une secte.
Voilà. Oui, mais on entend ça parfois, des catéchumènes qui me disent « ma famille ne me comprend pas et a l'impression que je rentre dans une secte », ou me dit « je suis en train d'entrer dans une secte », ce qui paraît quand même énorme, s'agissant de l'Église qui est un monde on ne peut plus ouvert.
On dit parfois de l'Église que c'est l'exact inverse d'une secte, c'est-à-dire que c'est difficile d'y entrer et facile d'en sortir. Difficile dans le sens où il y a 2 ans de catéchuménat. Une secte, c'est facile d'y entrer
et
difficile d'en sortir.
Voilà,
donc c'est un trait d'humour, mais ça le dit quand même. Et de fait, l'Église n'est pas une secte.
Quels sont les moments forts, les étapes principales du parcours de catéchuménat sur ces 18 mois ou 2 ans pendant lesquels le catéchumène doit faire son chemin avec d'autres et avec ses accompagnants ?
Alors la première étape qui les marque beaucoup, c'est l'entrée en catéchuménat, qui se fait donc au sein de la communauté lors d'une messe. Et le rite est très beau. Et ça les touche énormément, énormément. Et ça touche aussi la communauté, d'ailleurs. Ça, c'est une première étape. Ensuite, il y a la préparation à l'appel décisif, où ils rencontrent l'évêque, puis ils se retrouvent là en nombre au niveau du diocèse. Ils peuvent échanger avec les autres catéchumènes des autres paroisses. Ça, c'est aussi un temps fort pour eux. Puis il y a l'appel décisif lui-même, avec la rencontre avec l'évêque ou les autres prêtres qui sont là, qui leur remettent leur écharpe violette. Ça les touche profondément. Et puis les scrutins. Là, on est en train de vivre les scrutins. Et je suis frappée, moi, par l'émotion de ces catéchumènes après le scrutin. Ils en ressortent bouleversés.
Florence, Elisabella.
Oui, je rejoins Claudine. Ne pas oublier la dimension diocésaine. Ils voient qu'ils ne sont pas seuls sur notre ensemble paroissial. Et puis l'émotion qui ressort des scrutins. Moi, j'avais la main sur l'épaule d'un catéchumène lors des 2 derniers scrutins, et il tremblait.
Oui.
C'était très, très, très touchant. Ouais.
La plupart prennent vraiment la mesure de l'engagement que ça représente.
Ah oui,
je ressens.
Oui. Oui. Au point qu'ils disent, mais finalement, c'est pas plus mal de pas avoir été baptisé jeune, parce qu'on vit quelque chose de merveilleux maintenant.
Oui.
Ouais, ils le disent.
De faire les rites de l'Église.
Oui, cet aspect rituel aussi.
Elle a une sagesse et ses rites, en fait, que parfois on trouve que la ritualité, c'est un peu,
pesant,
un peu old school, un peu pesant. En fait, on voit combien ça a un impact puissant.
Donc,
de refaire ces gestes qui sont des gestes séculaires, ils touchent profondément ces gestes, ces paroles que l'Église nous transmet. Et nous, on n'en est que les héritiers. Quoi, hein. C'est la dimension, vous disiez, de tradition. Dans ces rites séculaires, on la vit profondément. Et ce qu'on voit, c'est que ça a un impact profond de transformation des cœurs. La ritualité, elle permet aussi la temporalité. C'est l'Église, elle aime les étapes. Elle dit aux gens,
il faut prendre son temps habituel.
Pour mûrir, pour se convertir, pour laisser la liberté grandir. Et donc voilà, ces rites que décrivait Claudine, ils aident ça. Ils aident vraiment...
Mais vous parliez de la perte de sens dans notre société, qu'il y a des gens qui viennent vers l'Église, qui demandent le baptême pour ça. Est-ce que justement, on ne leur apporte pas ça en plus, qu'ils n'avaient peut-être pas forcément perçu auparavant, tout le sens qu'il y a derrière les rites de l'Église catholique, et puis aussi dans l'architecture d'une Église, par exemple?
Alors moi, j'ai été assez étonné. Je pensais, par exemple, que les catéchumènes voulaient tout comprendre à la messe. Et donc, on a fait une petite enquête là, auprès de quelques catéchumènes. Ils disaient, nous, à la messe, d'abord, ce qu'on veut, c'est un peu la dimension sacrée. On n'a pas besoin de tout comprendre tout de suite. Et c'est assez vrai que le catéchuménat, ce n'est pas d'abord de tout expliquer. C'est d'abord de faire vivre une expérience de la rencontre de la personne de Jésus-Christ, de confiance dans l'Église, de vie fraternelle. Enfin, il y a d'abord cet aspect-là avant de vouloir tout expliquer. C'est vraiment la logique des catéchèses mystagogiques. Hein. On commence d'abord par vivre les choses. Et ensuite, on les explique. On commence par
c'est-à-dire
vivre la prière.
Ça infuse aussi lentement, je suppose.
Il ne faut pas vouloir à tout prix, enfin, moi je dis souvent aux catéchistes, il ne faut pas à tout prix vouloir faire le catéchisme un peu descendante. Ça viendra à un moment, évidemment, mais il faut d'abord leur faire s'attacher à la personne de Jésus, avoir confiance dans l'Église qui les accueille, découvrir la prière, découvrir la parole de Dieu. Si vraiment, déjà dans cette première année et demie, ils ont rencontré Jésus-Christ, fait l'expérience de l'Église, découvrir la vie de prière et s'attacher à la parole de Dieu, c'est bon. Le catéchisme viendra. Hein. Bien sûr qu'il faut transmettre la foi catholique. Il y a même un rite, la reddition, la transmission et la reddition du credo. Mais voilà, il y a quelque chose de premier. Et ça, de fait, la ritualité nous fait rentrer là-dedans.
Est-ce que pour certains, le parcours de catéchuménat peut être plus long que les 18 mois, 2 ans qu'il dure habituellement? Peut-être parce que, vous le disiez, certains ont besoin de faire une pause de temps à autre pour peut-être aussi confirmer pour eux-mêmes la fermeté, si je puis dire, de leur engagement.
Oui.
En être sûr.
À un moment donné, quand le temps avance, on les amène à discerner un peu où ils en sont de leur parcours. D'ailleurs, le service diocésain du catéchuménat a établi une fiche qui est très bien. Puis nous, on discerne en les voyant évoluer. Et on peut être amené à repousser un peu les sacrements. Par exemple, j'ai vu des fois où on disait ben, la confirmation. Non, ils vont être baptisés, ils vont recevoir le sacrement de l'Eucharistie. Et on pourrait reporter le sacrement de confirmation un an de plus, l'année suivante. Et ça se fait avec leur accord. Et souvent, ils sont très, très preneurs et demandeurs de ça, oui.
Vous l'avez constaté aussi, Florence et Elisabeth?
Alors oui, nous l'avons constaté. Et puis, il y a souvent, quand le sacrement arrive, quelques périodes de doute.
Oui.
Ils se sentent un petit peu bousculés, se demandant si ils sont sur le bon chemin. Et là, il faut vraiment être très présent pour les accompagner et justement leur dire qu'on peut différer, on peut décaler. Et qu'il est normal de passer par ces hauts et ces bas comme sur tout chemin de conversion.
Alors
de
ça
conversion.
Peut être parce qu'ils ne se sentent pas encore prêts ou parce qu'ils ne se sentent pas légitimes, pas à la hauteur?
Il y a toujours, je pense, une petite illégitimité qui perdure. Donc là, il faut vraiment leur dire qu'en fait, on est jamais prêt, on n'est jamais. C'est pas un enseignement, on coche pas les cases, je passe ou je passe pas. Et voilà, c'est leur désir profond et l'appel.
Père Simon.
Oui, parce que le sacrement, c'est un don de Dieu. Hein. Ce n'est pas quelque chose... je ne me baptise pas. Ça, parfois, on emploie cette expression, je me baptise. Non, tu es baptisé. Le sacrement, c'est un don de Dieu. Comme disait Florence, ce n'est pas au bout d'une espèce de checklist. C'est bon, j'ai fait ça. Je peux être baptisé. Non, je suis prêt et j'accueille ce don que Dieu me fait. Quoi. Donc, en effet, on n'est jamais prêt, on n'est jamais légitime, on n'est jamais digne. On le dit à chaque messe, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Donc, mais justement, ce combat spirituel, parce que c'est un vrai combat spirituel, hein, celui de l'indignité, du doute, c'est pas juste quelque chose de purement humain. C'est un vrai combat spirituel au moment de choisir Jésus-Christ. Et donc, dans ce combat, bah, l'accompagnement des accompagnateurs est essentiel, parce que, bien sûr, sans brusquer la liberté, mais parfois, il y a besoin d'un frère aîné, d'une sœur aînée dans la foi, qui va nous dire, ben, vas-y, tu peux franchir ce pas.
Un peu.
Il y a besoin d'une parole, un peu de confirmation, qui va aider à faire le pas. C'est-à-dire qu'on ne pousse pas la personne, mais une parole, la confiance bâtie pendant tout le parcours, va permettre à la personne de faire ce pas, de ne pas écouter le démon qui parle en disant, t'es pas digne, t'es pas prêt, t'es plein de doutes. Évidemment que t'es plein de doutes, évidemment que t'es pas digne, évidemment que t'es pas prêt. Mais le Seigneur t'appelle quand même. C'est à toi de faire ce dernier pas. Et là, ben, la puissance de la communauté, enfin la prière de la communauté. Pendant les scrutins, le prêtre demande à la communauté, voilà, prier pour les catéchumènes. Et c'est pas rien, il faut vraiment que que toute la communauté prie. Parce qu'à ce moment-là, on sait que ces scrutins, c'est des périodes de combat spirituel, vraiment, de dernière purification. Et la communauté prie.
Je pense aussi que vous pouvez leur dire que ne pas se sentir prêt n'est pas forcément négatif. Ça veut dire qu'on prend la mesure aussi de l'engagement que ça représente.
En fait, je crois que...
Et donc, ce n'est pas à la légère.
Parfois, nous avons une parole qui les touche et qui leur fait passer le pas, mais nous ne nous en rendons même pas compte.
Oui.
Nous ne savons pas quelle est la parole
qui a permis... Ça peut être un simple regard aussi, parfois.
Voilà.
Mais moi, la semaine dernière, j'ai été témoin de la réaction d'une catéchumène après le premier scrutin. On fait le chemin ensemble parce qu'on n'habite pas très loin l'une de l'autre. Et elle, tout d'un coup, elle se met à pleurer. Et elle m'a dit, écoute-moi, je ne suis pas digne d'aller plus loin. Voilà, elle s'accusait de tout un tas de choses. Mais je lui dis, mais enfin, c'est pas possible. Tout ce que tu me dis, tu es une bonne mère. Et le lendemain, j'ai réfléchi. Mais je me suis dit, ça, c'est le malin qui l'a attaqué sur une de ses peurs. Elle a une peur qui lui revient un peu souvent dans la tête. Et je lui ai dit, le malin t'a attaqué par ça et te fait douter. Puis je me suis souvenue aussi d'enseignements que j'avais reçus à une retraite de Pentecôte. On nous avait bien dit qu'il ne fallait pas se comparer les uns les autres et qu'il ne fallait pas dire du mal de soi, se méjuger complètement. Et elle a compris les choses et elle était mieux. Mais vraiment, j'ai senti une attaque du diable, là.
Après le baptême... Quand les personnes sont arrivées au bout du chemin de catéchuménat, vous continuez à les suivre?
Alors les rencontres vont de toute façon continuer, au moins jusqu'à l'été qui suit leur baptême. Voilà, c'est pas... Après la nuit de Pâques, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain, donc nous terminons l'année jusqu'à l'été. Et après, c'est à nous de les aider à trouver leur place dans la communauté. Mais c'est un chemin que nous avons déjà travaillé qui est anticipé tout au long du parcours.
Et puis là, enfin pour le coup, l'église de France, c'est notre paroisse, nous on est en train de réfléchir à ce bouleversement. On voit bien que le fait de mettre les catéchuménats au cœur va transformer la paroisse. Donc on réfléchit à ce néophyta, à ces jeunes plantes, ces jeunes pousses. En fait, on voit bien que le terme est très juste parce qu'il faut, elles sont dans un petit pot, puis il faut les transplanter dans un pot plus grand avant de les mettre en pleine terre. Et il faut accepter qu'il y ait des étapes à construire encore, et certainement que le catéchuménat, en fait, doit durer. Et donc là, on est en train de réfléchir avec tous les animateurs, avec l'EAP, avec le conseil pastoral.
Oui, parce que vous êtes confronté à quelque chose d'un peu nouveau tout de même,
oui.
Ce phénomène actuel.
Et cette nouveauté, d'ailleurs,
qui va se prolonger,
je crois beaucoup, vraiment beaucoup, que... si le Seigneur, vous le disiez dans votre introduction, envoie autant de catéchumènes à son Église, c'est pas pour remplir son Église, c'est pour la transformer de l'intérieur. Et donc, on a une mission, nous, de les accueillir et de chercher vraiment ce que le Seigneur veut nous dire, en fait. Voilà, il n'y a pas juste des catéchumènes arrivent, il faut s'en réjouir. C'est vrai, il faut s'en réjouir, mais moi, je crois vraiment que le Seigneur veut dire quelque chose à son Église et est en train de la transformer lui-même, en fait. Et nous, il faut essayer de ne pas trop résister à cette transformation, d'essayer de comprendre ce que, comme dit l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises.
Oui. En plus, je suppose que ces catéchumènes, eux-mêmes, peuvent vous en apporter d'autres ensuite, peuvent être prescripteurs. Est-ce qu'ils peuvent aussi devenir eux-mêmes accompagnateurs après? On pourrait penser que ce sont les mieux placés.
Oui. Alors, nous avons des baptisés de l'an dernier qui sont devenus Barnabé. Donc, première étape dans l'accompagnement. Et puis, nous avons deux jeunes amis... Donc moi, il y en a un, je l'ai carrément accompagné avec Claudine, d'ailleurs. Nous l'avons accompagné vers le baptême, l'année d'après vers la confirmation. Et puis, il est devenu accompagnateur avec nous. Donc, deux personnes.
Ça me paraît une suite assez logique, effectivement.
Et notre jeune qui avait suivi le parcours pour être confirmé et qui est devenu accompagnateur aussi.
Mais d'ailleurs, on voit bien, enfin nous, en tout cas dans la paroisse, on a construit ces étapes. Donc, c'est-à-dire qu'on propose en effet aux néophytes de devenir Barnabé, c'est-à-dire d'accompagner un jeune catéchumène, parce qu'en fait, ils viennent de vivre ça, donc l'accompagner fraternellement. Et moi, je vois bien que c'est dans ces Barnabés, ils sont 130 à la paroisse actuellement, que je peux appeler des accompagnateurs, et de fait, on en appelle en permanence, qui viennent se mettre dans un duo d'accompagnateurs, ils regardent fonctionner le duo, puis quand ils sont mûrs, ben, je prends un des accompagnateurs pour créer un nouveau groupe, et celui qui était en trio, qui regardait fonctionner, ben devient accompagnateur. Et donc, il y a une espèce de cercle vertueux où le catéchumène devient néophyte, le néophyte devient Barnabé, le Barnabé devient accompagnateur, l'accompagnateur devient formateur. Et donc, il y a quelque chose de vertueux qui fait que ce n'est pas pesant. Enfin, ce n'est pas pesant, il faut appeler, hein, mais... Et que ça participe à la transformation de la communauté. C'est-à-dire, plus il y a de personnes engagées mise en contact avec cette grâce du catéchuménat, c'est-à-dire la grâce que les catéchumènes ont reçue d'être appelés par le Seigneur et transformés par lui, plus il y a des personnes qui sont mises en contact, en fait, plus la paroisse tout entière est d'abord sensibilisée, mais profondément transformée.
Nous allons terminer là-dessus, si vous voulez bien. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci beaucoup à tous les trois d'en avoir été les invités pour échanger autour du boom du catéchuménat à Toulouse et un peu partout en France. Et merci d'avoir décrit dans le détail ce qu'est le parcours d'un catéchumène dans les paroisses cathédrales. Je rappelle l'adresse de votre site internet www.paroissecathédraletoulouse.fr. Pour ceux qui voudraient se renseigner plus en détail sur vos activités, cette émission était animée par Éric Dupré, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, à l'écoute de nos programmes. À la semaine prochaine.